Et salut, c'est l'heure d'écouter des litres de salive sur le 89.5 de Radio Duo. Des litres de salive, l'émission qui fait des longs filaments de bave dans tes oreilles comme alien.
C'est le moment de libérer la chatte.
Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois?
J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés.
Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc.
Mais combien de fois t'as simulé?
Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis.
Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos.
Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre?
Moi, j'adore les histoires de pénis.
Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire.
Que veux-tu, je suis fan de toi. Que veux-tu?
Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro?
Que veux-tu, je suis fan de toi.
Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus.
La baisse, la baisse, la baisse.
Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Il a fait un temps atrocement merdique. Ouais, désolé, je vous parle de la météo. Mais donc, il a fait un temps atrocement merdique beaucoup trop souvent et ça a des conséquences sur la vie, tout ça. Mais du coup, je passe plein de temps à regarder des séries et aussi des documentaires, dont la série qui s'appelle Frozen Planet, qui est une série de documentaires sur les endroits gelés. Hein. Et je la conseille non seulement parce qu'elle colle à l'ambiance de ce printemps tout pourri et glacial jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais aussi parce qu'elle est pleine d'animaux super mignons, comme le chat de Pallas, et que c'est avec la voix de David Attenborough qui manque de vous faire chialer à la fin de chaque épisode en parlant du changement climatique comme un forcené, mais bref, dans Frozen Planet, il y a un épisode avec des petits oiseaux arctiques, ou antarctiques, je me rappelle jamais. Ces oiseaux, ils se bagarrent pour le territoire, la reproduction, enfin voilà, ils se bagarrent et ils ont une méthode un petit peu originale, à savoir, ils se gerbent dessus. Vraiment, ils font des gros jets de vomi orange fluo, alors ce qui a un effet esthétique indéniable avec la neige et tout ça, hein, mais comme ça, ils se battent à coups de gerbille, quoi. Et en plus, c'est super dangereux parce que le vomi, il gèle instantanément leur plumage. Et du coup, ils doivent vite se rouler dans la neige pour se nettoyer et bref, ça me faisait penser à un truc, ça. Là, il y avait un truc dans ma tête, ça m'évoquait quelque chose de se battre avec les gens en leur gerbant dessus, hein, une espèce de jet puissant d'une bouillie fluorescente tape à l'œil, pleine d'éléments flous et approximatifs. Et puis j'ai compris. En fait, ça me faisait penser au réac. Dans cette émission, on va parler des mécanismes de pensée réactionnaire. Un peu, et puis surtout des discours réactionnaires avec les stratégies qui sont utilisées dedans. Et y aura des exemples dans des cadres privés, des cadres intimes, des cadres de discours publics aussi, des extraits de bouquins et de brochures qui parlent de ça. Et donc on va parler plus des logiques réactionnaires plutôt que de mouvements réactionnaires en politique à proprement parler, quoi. Et pour commencer, essayons de définir les termes du sujet de l'émission. Alors pour réactionnaire, en gros, une pensée réactionnaire, c'est une pensée qui s'accroche à un ordre établi et qui se crispe face à des changements quelconques, alors souvent face à la seule mention de la possibilité de ces changements. Donc c'est une pensée qui réagit à l'idée du changement. Pour appuyer la définition, on peut prendre un exemple petit exemple, donc c'est un exemple dans une conversation privée, mais le mécanisme, il peut se reconnaître dans des discours médiatiques ou publics. Hein. Donc, dans une conversation, il y a une personne qui dit « Ah, quand même, ce serait bien d'arrêter de mentionner le genre sur les papiers d'identité parce que ça sert à rien. » Et on lui répond « Oui, mais moi, je ne veux pas qu'on me prive de mon identité de femme. » Alors, donc on a la réaction à une remise en question d'une norme établie, qui est d'avoir son identité de genre sur ses papiers d'identité, et également une réaction à la remise en question du coup, de ses habitudes administratives. Donc, on peut ajouter un autre élément souvent présent dans la pensée réactionnaire, les présuppositions issues d'une crainte basée sur rien du tout. Il n'a jamais été question d'empêcher la personne d'exprimer une appartenance au genre féminin. On n'exprime certainement pas son appartenance de genre par ses papiers d'identité en premier lieu, en fait. Et or, on genre les personnes sans accéder à leurs papiers d'identité la plupart du temps. D'autant plus dans l'exemple concerné où la personne, c'était une meuf cisgenre d'apparence féminine. Donc elle n'avait pas vraiment d'enjeu de ouf sur ses papiers d'identité, quoi. La crainte exprimée de ne plus pouvoir s'identifier comme femme n'a donc rien à voir avec l'idée mise au départ. On a une déformation du sujet de base pour pouvoir le ramener à soi et y associer un préjudice tout à fait imaginaire, mais cependant utilisé pour contrer le discours de la personne en face. On aura l'occasion de se pencher sur beaucoup d'autres stratégies de discours et de pensée réactionnaire, mais donc on peut définir la pensée réactionnaire comme simplement une pensée de rejet d'un changement. Le changement en question allant dans le sens de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le progrès social. La pensée réactionnaire, elle n'émerge pas face à plus d'autoritarisme, plus de politique sécuritaire. Elle émerge quand on veut aller vers moins d'oppression et plus d'égalité entre les personnes. Mais bon, on pourrait dire que de toute façon, cette précision, elle est tout à fait inutile. Tout véritable changement, il peut aller qu'à l'encontre des normes et politiques sexistes, racistes, transphobes, classistes, à l'encontre du capitalisme. Sinon, c'est seulement une accélération dans la même direction, plutôt qu'un changement. Pour voir les choses comme ça, il faut considérer à la base que les normes actuelles sont sous-tendues de logiques oppressives, même si des fois, il y a des petits écureuils, et que c'est sympa la vie. Et maintenant, on peut essayer de définir ce que c'est la gauche. Hein. Alors, la gauche, hein, avec la gauche, c'est censé aller un certain nombre de valeurs, même si c'est plus compliqué que ça. Alors, si on a envie, on peut aller regarder, je sais pas, la vidéo hyper simple sur YouTube de la chaîne Télécrayon sur c'est quoi la gauche, la droite. Aussi, on peut développer en allant regarder les vidéos de la chaîne qui s'appelle la chaîne Esprit Critique. Il y a une série de vidéos sur ces thématiques qui est assez développé. Mais en gros, quand je mentionne la gauche, l'extrême gauche dans le cadre de cette émission, c'est une ambiance politique dans laquelle on est censé être antiraciste, antisexiste. En gros, pour le progrès social et contre les oppressions, la gauche, ou quand on est de gauche, on est censé tendre vers l'égalité sociale, avoir des valeurs d'acceptation de l'autre et d'aide aux personnes en galère aussi, par exemple. Pour ce qui est de l'anarchisme, c'est censé être encore plus égalitaire, de façon plus radicale, sans demi-teinte ni compromis institutionnel. Enfin, c'est censé être une forme radicale d'abolition des inégalités et hiérarchies, une répartition égalitaire du pouvoir et la fin du capitalisme. Oui, pas dans tous les anarchismes, gna gna, mais dans ceux dont je parle là, oui. Et donc, comment ça se fait qu'il y ait aussi de la pensée réactionnaire à gauche et dans l'anarchisme, alors que justement, normalement, la gauche, l'anarchisme, tout ça, c'est des styles d'état d'esprit, de mouvements politiques, etc., où on est censé prendre le contre-pied et arrêter deux secondes de faire de la merde. Et alors, comment ça se fait? Ça va vachement vous étonner, hein? Mais c'est de la faute des mecs cis hétéros, blancs et des fois bourgeois. Voilà, incroyable. Fin de l'émission, conclusion atteinte.
I'm
vient d'écouter Displeasure, le groupe Displeasure, avec le morceau United in Displeasure. Donc on va essayer d'aller faire une petite balade, de faire un peu le tour succinct, non exhaustif du monde merveilleux des logiques réactionnaires, histoire de se plonger dans l'ambiance. On retrouve ces logiques dans des discussions et situations de la vie quotidienne. Comme d'hab, quand on parle de politique et d'oppression, on remarque un croisement entre le politique et le personnel. Et les idées et réflexions, elles sont fortement impactées par le vécu des personnes. Et ce vécu, il est impacté forcément, pas que, mais quand même, par leur situation sociale et le fait qu'elles soient touchées ou pas par des oppressions systémiques. Il y a une présence de logique réactionnaire dans des situations du quotidien, individuelles, des discussions. Et en même temps que ces logiques réactionnaires, elles sont présentes dans certains médias mainstream. Elles ont une place dans les politiques publiques, les lois, les institutions, tout ça. Voilà. La réaction, elle se fait souvent sur des sujets ou des oppressions qui ne touchent pas directement les personnes. Par exemple, on peut donner un exemple, les innombrables conversations avec les types 6-7 qui ont des réactions de déni et un langage agressif lorsqu'on leur dit que le sexisme existe, déjà, oulala, que le sexisme nous impacte, et encore pire que leur comportement à eux est à remettre en question du point de vue sexisme. Et je parle même pas de quand on leur dit qu'ils ont, oui, des privilèges, même si des fois ils sont tristes. Ouin. Oui, vous voyez ce mème de l'internet là, comment je peux avoir des privilèges alors que des fois je suis triste. Et je sais pas si vous connaissez cet autre mème de l'internet qui illustre pas mal ce genre de réaction aussi. Il y a un gars qui est en train de pleurer sur l'image et il pleure en face de sa meuf et il lui dit « Bébé, ça me fait beaucoup de mal quand tu me parles de tous les trucs affreux que je t'ai fait. » Et il y a une logique comme ça d'inversion du préjudice et de se mettre en position de victime alors qu'on est justement la personne qui a fait de la merde et qui a appuyé sur l'oppression là comme ça. Et ce truc est donc très présent dans des interactions avec des cis-types et malheureusement aussi dans les interactions avec ceux qui sont proches de nous, dédicaces au papa, au tonton, au grand frère, au petit frère, aux potes et aux ex. Se prétendre attaquer ou agresser quand on est l'émetteuriste de l'agression, c'est une stratégie défensive face à la remise en question et c'est typique d'un fonctionnement de style réactionnaire. On retrouve ça dans des cadres privés et intimes, comme dans le discours public, par exemple, quand Oser le féminisme dit « Ouin, ouin, les vilaines queer, elles font qu'à nous cancel. On comprend pas où est le problème, on est juste abolitionnistes et transphobes, mais on veut bien en discuter. Ouin. » Le désaccord, les remarques sur le caractère oppressif des pratiques ou propos tenus, ou même la simple évocation d'autres points de vue, leur existence, provoque la réaction. Peut-être parce que la personne est surprise et déstabilisée, son point de vue sur la question abordée étant le point de vue le plus entendu et partagé, elle ne s'attend pas à en entendre un autre. Ou plutôt, elle est assez soutenue et solide sur ses bases pour ne pas avoir besoin de se remettre en question aussi. Alors que lorsqu'on émet une idée qui n'est pas forcément du côté de la norme, on est en général préparé à des difficultés à être comprises, entendues, on est même préparé à de l'hostilité. Et bien sûr, tout ça c'est quand on est dans des cadres de conversation polie, c'est quand tout va bien. Hors de ce cadre, émettre une opinion contraire à la norme, ça peut valoir de recevoir diverses violences verbales et ou physiques, y compris dans un cadre de relations affectives. Par exemple, quand on dit que les hommes cisgenres bénéficient de privilèges à un pote et qu'il finit par nous crier dessus pendant une heure parce que c'est trop pour lui comme information, le fait que sa petite personne bénéficie de privilèges. L'autrice de « Le conflit n'est pas une agression », Sarah Schulman, elle nous dit dans un entretien à propos de son bouquin que, je cite, « Lorsqu'une personne en situation de domination s'installe dans l'idée qu'elle ne devrait pas être remise en question et que quelqu'un exprime sa différence, l'inconfort vécu par la première est souvent interprété comme une attaque. » Fin de citation. Donc l'agressivité, en réponse à un sentiment d'agression, est l'une des stratégies des personnes réactives. Et ça va souvent avec une sorte de retournement qui peut s'opérer. Autre exemple, dans une conversation avec une autre cis-meuf, on en vient à parler de pilosité. Et elle me dit, pour résumer, ah, cette personne a des poils sous les bras, c'est dégueulasse. Et puis ne pas s'épiler le maillot, franchement, c'est abusé. Ce à quoi je rétorque qu'on fait bien ce qu'on veut et que, bah, elle aussi, mais que son jugement, il va dans le sens des normes et que c'est un petit peu écrasant. Et là, elle déploie un truc qui m'a surprise à l'époque, mais malheureusement plus maintenant. Elle me dit que c'est moi qui l'écrase et qui la juge avec mon discours progressiste. Oui. Oui, oui, cette personne qui a qualifié ma pilosité, celle d'autres personnes de dégueulasse et qui a donné d'autres précisions que je ne vais pas répéter ici concernant ce qui doit se faire ou pas dans des cadres d'intimité partagée au niveau des poils. Cette personne, lorsque je lui dis que moi je fais autrement, me fait ouin ouin, tu me juges. Alors peut-être aussi qu'elle a réagi parce que je lui ai indiqué qu'elle-même me heurtait et qu'elle n'a pas accepté ça. Dire aux personnes qu'elles ont fait un truc chiant, c'est pas possible tout le temps ni avec tout le monde hein, et... Ce qui est caractéristique aussi dans cette situation, c'est qu'elle montre qu'on peut tout à fait être réac à propos de quelque chose qui nous opprime nous-mêmes, en fait. Mais donc, il existe une stratégie d'inversion des rôles face à la remise en question des normes que les personnes tenant des discours oppressifs les personnes qui tiennent des discours oppressifs se sentent agressées face à cette remise en question et font ouin, 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 et d'ailleurs... On peut le dire, on peut appeler ça la stratégie du ouin-ouin. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que bah, les critiques du soi-disant wokisme, elles parlent fréquemment d'une trop grande place faite aux ressentis, d'une utilisation des ressentis pour empêcher le dialogue et la réflexion, etc. Mais en fait, les réacs mettent leur ressenti de persécution au centre beaucoup plus souvent que les personnes qui dénoncent les comportements oppressifs, et ce, dans des situations et conversations au quotidien, en nous rebattant les oreilles avec leur liberté, par exemple.
Fatigant pour la manière dont je m'habille, choquant pour tout ce que j'ai à dire.
Et c'était le groupe Trolls, qui est un groupe de Toulousaines, avec Crève le patriarcat. Maintenant, on va parler d'un bouquin qui s'appelle La panique woke. Voilà, très beau titre. C'est un bouquin de Alex Mahoudou. Et en gros, ça parle de la panique morale et réactionnaire à propos du wokisme. Et c'est plutôt, ça se centre plutôt sur le discours public de la droite hein, et de l'extrême droite. Hein. Voilà. Je vais vous lire l'intro qui revient aussi sur l'origine du terme woke. Alors, la petite introduction. De la menace woke à la panique woke. Le 7 janvier 2022, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, prononçait le discours d'ouverture d'une réunion organisée à la Sorbonne par une association, le Collège de philosophie, et présenté comme un colloque sur le thème des risques de la déconstruction à l'université. L'événement ressemblait à un ensemble hétéroclite d'intellectuels publics, de commentateurs généralistes de l'actualité, d'essayistes et même d'universitaires, pour aborder divers problèmes auxquels l'enseignement supérieur en France et à l'étranger était d'après eux confronté. Déconstructionnisme, intersectionnalité, racialisme et néo-racisme, néo-féminisme, idéologie du gender, cancel culture, etc. Sans oublier un panel consacré à la question de l'islam. Pour certains, relativement anciens et établis dans le débat public pour d'autres récents, les termes mobilisés tombaient sous le coup d'une marotte relativement récente en France, le wokisme. Le terme woke est originaire d'une forme de la langue anglaise pratiquée par les Noirs aux États-Unis, l'African American Vernacular English, dans laquelle il signifie « éveillé ». Ainsi que l'explique la chercheuse Mam Fatou Niang, le terme est employé dans un sens social ou politique à partir du XIXe siècle, contexte dans lequel il désigne l'attitude consistant à ne pas perdre de vue que les problèmes personnels auxquels sont confrontés les États-Unis noirs ne sont pas uniquement liés à leurs défauts personnels, mais à une situation d'ensemble tournée contre eux. Plus ou moins utilisé durant le XXe siècle, il refait surface au moment d'un regain de mobilisation antiraciste durant le second mandat de Barack Obama, marqué par la création du mouvement et de l'organisation Black Lives Matter. Parmi de nombreux autres slogans, l'injonction « Stay woke », invitant à ne pas perdre cette attention aux discriminations, devient rapidement une expression populaire sur le plan artistique et entre dans le langage courant, synonyme d'une forme de militantisme notamment liée à Black Lives Matter. Plus tard, le terme évolue pour couvrir l'attitude hypocrite de certaines entreprises mettant en avant des symboles égalitaires tout en ne changeant fondamentalement rien aux systèmes sociaux inégalitaires, mobilisant l'esthétique de la justice sociale comme certaines entreprises polluantes décidaient dans les années précédentes de repeindre leur logo en vert pour s'approprier celle de l'écologie. S'il faut attendre la fin des années Trump et un autre cycle de mobilisation antiraciste aux États-Unis et ailleurs à la suite du meurtre de George Floyd par un policier pour que le woke devienne un slogan largement repris par la droite états-unienne, le terme prend un sens plus nébuleux et plus volontairement critique dès le milieu des années 2010. À gauche comme à droite, comme l'explique la journaliste Aja Romano, le terme sert rapidement de mot fourre-tout, utilisé comme un raccourci pour décrire le progressisme politique par la gauche et comme une façon de dénigrer la culture de gauche par la droite. Fin de la citation dans l'introduction. Dans ce bouquin, dans La panique woke, l'autrice elle nous dit que la panique morale se caractérise par 5 points. Premier point, la diabolisation d'un groupe. Deuxième point, malaise social, consensus. Troisième point, la volatilité de cette panique. Quatrième point, l'exagération, voire l'invention d'éléments. Et cinquième point, l'hostilité à l'égard du groupe désigné. Elle utilise l'exemple de la manif pour tous, où on avait la diabolisation du lobby LGBT, le malaise social, etc. Je vais vous lire un autre extrait qui parle de yaourt.
Thank you.
le yaourt de l'apocalypse. En septembre 2017, la députée LR Valérie Boyer sonnait l'alarme sur une affaire inquiétante. Dans une lettre à l'entête de l'Assemblée nationale, l'élu LR s'inquiétait des dérives d'un grand groupe commercial français. Ce dernier avait en effet, d'après la députée, entrepris de supprimer une croix d'un paquet de yaourts brassés à la grecque, en vente dans les rayons de ses supermarchés. Elle prenait également le temps de tancer le PDG de ce groupe sur sa responsabilité historique. « Votre démarche renforce le christiano-mépris !» Oui, c'est un vrai mot, il y a vraiment écrit ça, le christiano-mépris, de ceux qui cherchent à supprimer les croix à l'entrée de nos cimetières, les crèches de Noël dans les bâtiments publics, les processions dans nos villages, les fêtes chrétiennes dans nos calendriers, la galette des rois dans nos écoles. Craignant que par ce geste, l'industrie n'efface 1500 ans de tradition chrétienne. Il n'aurait, semble-t-il, pas fallu oublier l'influence politique majeure des emballages de pots de yaourt sur la population générale. Voilà, c'est la fin de l'extrait. Donc on voit dans cet extrait que la situation expose, l'autrice expose une exagération de la gravité d'un événement. Voilà. En plus de l'exagération, on sent une crainte d'évolution ou d'augmentation du phénomène alors que absolument rien ne permet de penser que ça va se produire. Donc on a de la déduction abusive. Et on voit aussi, dans ces quelques lignes, une réappropriation de la situation d'opprimé, parce que genre, le catholicisme, c'est une religion opprimée en France, et qui est menacée de disparaître du paysage culturel. Voilà, absolument. Allez, on va lire un autre extrait qui évoque le backlash, qu'on peut voir comme un type de phénomène réactionnaire aussi. La notion de backlash a ainsi connu une grande popularité pour décrire la façon dont les relatifs progrès sur le plan de l'égalité, non seulement des droits et des statuts, mais également au niveau économique, sont suivis de contre-coups et de régressions. Ce phénomène est généralement présenté comme une conséquence naturelle, un mouvement de balancier venant corriger les excès des mouvements sociaux orchestrés par des groupes sur le déclin et dans l'équilibre des pouvoirs. En réalité, ainsi que l'explique l'historienne Susan Faludi, dans son ouvrage du même nom, le backlash des années Reagan a été soigneusement travaillé par une partie des élites du mouvement conservateur, à commencer par la nouvelle droite religieuse, à la fois sur la base d'un travail idéologique de fond et de l'opportunité politique ouverte par la proximité de la date butoir pour la ratification de l'Equal Rights Amendment, une modification constitutionnelle entérinant l'égalité femmes-hommes qui devient un enjeu essentiel portée par la nouvelle droite états-unienne au moment de l'élection de 1980. Dans le même temps, les commentateurs proches de ce courant n'hésitaient pas à représenter les enjeux féministes comme marginaux, comme des pertes de temps de la part d'élites déconnectées des problèmes de la vraie Amérique, des femmes ordinaires, comme l'explique Diane Lamoureux. Dans le discours des intellectuels antiféministes décrite par Françoise Coste, cela passe par une crainte des potentiels effets dévirilisants du féminisme. Or, ce sont les mêmes thèmes qui alimentent la droite durant et après les années 80, si l'on en croit au moins l'inventaire des théories pseudo-scientifiques qui abondent dans le débat, à mesure que se déploie l'agenda de la guerre aux femmes décrite par Faludi, selon lesquelles le féminisme des années 70 aurait eu de nombreux effets négatifs sur la vie des femmes, décourageant les mariages, faisant baisser la natalité et ruinant la vie familiale en général. Cette rhétorique des effets pervers permet de jouer un problème social contre un autre, attribuant un ensemble de problèmes sociaux et économiques à un vague déclin moral. Voilà. Fin de l'extrait. Et je vais vous lire un autre petit extrait sur l'émergence du terme wokisme en France. Si je le trouve. Ah. L'environnement médiatique français a fait bon accueil aux polémiques marquant la naissance de la panique woke. Dans un pays constamment inquiet de l'importation d'idées anglo-saxonnes, les débats sur la folie des campus font ainsi l'objet d'un intérêt renouvelé à partir de 2019, et notamment face à un féminisme et un antiracisme faussement décrits comme étrangers au corps national. À la publication en français d'ouvrages comme « White » de Bret Easton Ellis, se lamentant de la pression du politiquement correct dans son pays, à des coups médiatiques comme la lettre ouverte de Harper's Magazine, rapidement reprise dans les colonnes du Monde, s'ajoute un flux régulier de reportages sur les outrances du politiquement correct, de la cancel culture et puis du wokisme, sur divers campus et dans diverses industries, et enfin, des ouvrages directement publiés en français dénonçant l'américanisation du débat, tout en important l'essentiel de leurs exemples et analyses des États-Unis. Voilà, voilà. Et, en fait, tout au long du bouquin, l'autrice, donc Alex Mahoudou, elle identifie quelques pratiques rhétoriques réactionnaires et elle essaye de les lister un petit peu. Donc, dans les pratiques rhétoriques qu'elle identifie, il y a se présenter comme le côté raisonnable, rationnel. Il y a aussi mentir et se contredire sans sourciller, en fait. Il y a l'élaboration de punchlines creuses, la rhétorique fallacieuse, l'invention de termes qui claquent. Il y a confondre les choses, mélanger par exemple une demande d'égalité de droits pour les lesbiennes avec une interdiction de l'hétérosexualité. Donc ça permet des exagérations. Hein. Il y a la victimisation, donc ce qui est assez amusant vu qu'un des principaux discours réac contre le wokisme consiste à dénoncer un soi-disant excès de victimisation dans les discours des personnes consciente des inégalités. Et en plus, ça a présenté cette victimisation comme une stratégie rhétorique fallacieuse qui silencierait les réacs, ouin ouin les pauvres. C'est vrai qu'elles sont tellement silencieuses. Et je vais vous lire un dernier petit extrait. Un dernier petit extrait. Spécialiste d'analyse de discours, Ruth Wodak montre la manière dont les discours réactionnaires contemporains s'appuient ainsi sur un rapport très ambivalent à la victimisation, consistant à procéder à un renversement de la position victime-offenseur, tout en assumant une position de rupture des tabous. Dans ce sens, la personne perpétuant un cliché ou une représentation stéréotypée n'est pas en position d'offenseur, tout en tirant les bénéfices d'être perçue comme disant « des vérités qui dérangent ». Mais elle est en posture de victime de celle qui se rebiffe contre ce qu'elle dit. Ce ne sont, dans la bouche des politiciens analysés par Wodak, pas les partis d'extrême droite dont le discours contient des sous-entendus xénophobes et racistes qui sont à blâmer, mais les sensibilités exacerbées des antiracistes qui voient le mal partout. Au contraire, inviter des politiciens aux idées taboues ou provocatrices est un signe d'ouverture du débat public. On retrouve cette forme de raisonnement dans la façon dont les lamentations conservatrices aux États-Unis sur les effets pervers de l'action affirmative sur les campus ont ironiquement conduit certains conservateurs à demander non seulement sa réduction, mais la mise en place de politiques d'action affirmative à leur propre avantage, sous le prétexte de l'impératif de diversité écologique. Non, idéologique. Selon ce raisonnement, ce n'est pas le manque de diversité sociologique, par exemple la représentation des femmes, des personnes racisées, des minorités sexuelles, des classes populaires, qui serait indicatif d'un problème de fond, mais celui des personnes de droite. Voilà. Mais bien sûr. Voilà, c'était la fin de l'extrait. Ce bouquin, il est plutôt cool, il est très intéressant. Évidemment, il y a beaucoup plus de situations et c'est beaucoup développé à l'intérieur et je vous en conseille la lecture.
I'm a god.
Et c'était le groupe Petrol Girls avec leur morceau Baby I Had an Abortion. On va passer à une autre partie de l'émission où on va parler, on va donner des exemples et analyser un petit peu des discours plutôt militants, prétendument de gauche ou anarchistes, mais en fait ils sont homophobes, sexistes et transphobes. Voilà. C'est parti. Alors on va parler de personnes qu'on pourrait qualifier de réactionnaires sélectives. Elles se pensent de gauche, féministes, écologistes, anarchistes, tout ça, mais elles deviennent complètement réac. Et dans les cas que je vais étudier, elles font ça de façon militante, pas seulement en râlant dans leur coin ou en agressant verbalement des personnes dans un cadre privé à l'occasion. Alors, dans cette catégorie, évidemment, on a toutes les TERF, donc les prétendues féministes qui militent pour l'exclusion et l'oppression des personnes trans. Pour en savoir plus, on peut écouter l'émission Comme un ouragan, qui est une émission féministe sur Radio Dio. Alors cette émission-là, je pense qu'elle est intitulée « Pour une alliance transféministe contre les TERF ». Elle date de novembre 2022 et on peut la trouver alors, soit sur le site d'émission féministe Radio Rageuse ou alors sur Radio Dio en podcast. Et on va refaire une pause musicale parce qu'il y a un morceau que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui colle assez bien avec la thématique. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Unsanitary Napkins et le morceau s'appelle Turf Wars. Et en gros, c'est un morceau qui dit que les TERF conspirent avec les fascistes quand ça les arrange et collaborent au patriarcat. Après avoir écouté Unsanitary Napkin avec Turf Wars, on va parler d'un bouquin qui est assez caractéristique du phénomène des réactionnaires sélectifs. Ce bouquin, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de livre, je ne sais pas, s'appelle « La reproductibilité artificielle de l'être humain ». Il est sorti il y a une dizaine d'années dans une maison d'édition se réclamant de l'extrême-gauche, la lutte écologiste, l'anticapitalisme, gna gna gna. Et ce bouquin, donc, c'est assez typique de l'adoption par des personnes se croyant de gauche de logiques extrêmement réactionnaires. Et dans un cadre en plus de paroles publiques et militantes. On y retrouve une grande variété de rhétoriques biaisées ou carrément fallacieuses qui est caractéristique des réacs. C'est un peu le bingo des réacs de gauche, hein, mais qui ne sont pas de gauche en fait, hein, on s'est comprise. Et je suis arrivée à la conclusion que c'était plus problématique qu'intéressant de lire des vrais extraits de cette bouse informe qui se tortille dans les abysses de la médiocrité intellectuelle en plus d'être homophobe, transphobe et sexiste. Même si c'était pour analyser immédiatement ces extraits, mais sachez que quand même je me suis tapé un chapitre entier de cette grosse merde, plus des extraits de cette espèce de... Ah, je n'ai plus de mots. Donc je vais vous parler des trucs d'argumentaire utilisés plus que du contenu précis, mais parfois il va y avoir mention du contenu pour pouvoir peut-être avoir des petits exemples. Voilà. Donc je me base sur des extraits du chapitre 4 de ce bouquin, Le chapitre 4 qui s'appelle « Les crimes de l'égalité ». Et qui parle surtout du moment du mariage pour toutes hein, et aussi parler de la perspective, et qui va parler aussi de la perspective, c'était il y a 10 ans, hein, de l'ouverture de la PMA à toutes les personnes à utérus. Si vous voulez aller lire ce truc en entier, le chapitre 4, il est disponible en intégralité sur un site qui s'appelle Collectif Lieux Communs, tout attaché, voilà. Burke. Voilà, mais on sait pas, peut-être vous avez des petits élans masochistes en ce dimanche soir, hein, donc voilà, je vous en prie. Mais donc, pour résumer les problèmes de rhétorique et d'argumentation présents chez cette atroce tête de cul, tout d'abord, dans le texte, on trouve beaucoup de généralisation à partir d'exemples uniques, sans que la généralisation ou sa crainte soit argumentée ou prouvée. Voilà, ça c'est assez caractéristique des discours réactionnaires. Et des paniques morales aussi d'ailleurs, comme l'indique le bouquin d'Alex Maudo. Il est également farci de raccourcis de logique qui confondent corrélation et cause à effet. Je sais pas si vous voyez, mais il va dire il se passe tel truc, forcément c'est lié, alors qu'il n'y a aucune preuve, aucun lien logique pour ça, à part celui que lui-même fait dans sa tête et qu'il l'arrange bien politiquement. Tout le bouquin, il est farci de références à des articles du Figaro ou de journaux de ce style. Donc ça se réfère à des médias de droite quand ça les arrange, et en plus à des médias qui sont pas du tout scientifiques. Le bouquin cite aussi de prétendues références de la pensée queer qui ont rien à voir avec les théoriciennes et les activistes qui font réellement partie du mouvement queer. Et il y a une obsession pour le prétendu ordre naturel, mais sans base scientifique ni réflexive, autre qu'un espèce de piètre référence à du sens commun. Donc voilà, pour ce point-là, généralement, il y a un problème grave de rigueur dans la documentation des propos tenus dans le bouquin. Le point suivant, ce serait des confusions, par exemple entre le concept d'égalité et le concept d'absence de différence ou d'uniformisation, par exemple sur les questions du genre et de... Voilà, c'est un grand classique, à la confusion des identités de genre, tout ça. Et il n'y a pas que des problèmes rhétoriques, hein, y a aussi des problèmes politiques et de posture dans ce bouquin. Donc par exemple, il y a cette bonne vieille idée d'une priorité à la lutte des classes hein, sur les autres luttes sociales. Et puis, dans le même temps, hein, une exclusion des personnes LGBTQI de cette même lutte des classes parce que c'est bien connu, ces personnes ne font jamais partie, par exemple, des classes populaires. Jamais, il n'y en a pas. Non. On a aussi un truc assez caractéristique de gens qui se pensent anarchistes, mais en fait, ils sont des gros nuls. Le texte transpire un espèce de sentiment de supériorité, ce qui ressemble à... Il y a une posture qui est une hybridation de la posture de « moi j'ose dire à voix haute ce que tout le monde pense tout bas » et de « les gens sont tous des moutons sauf moi qui suis le plus malin ». Voilà. Donc, comme posture, c'est pas terrible. En filigrane, on a, alors tout à fait classique, ça aussi on en a déjà parlé avant dans l'émission, on a une mise au même niveau de propos oppressifs et de propos de personnes qui se défendent des oppressions. Une représentation donc des propos oppressifs et discriminants comme étant neutres et étant de simples opinions, alors que répandre des idées par exemple homophobes, c'est pas une opinion, ça a des conséquences sur des vies en fait. Et cette mise au même niveau pouvant aller jusqu'à un espèce de retournement fictif du rapport de pouvoir. Oui, c'est le moment où ils font ouin, 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 encore et sans fin, voilà. Alors, on pourrait se dire que c'est fini, ces inepties, parce que c'est un bouquin qui est sorti, ma foi, il y a longtemps, ça fait plus de 10 ans, tout ça. Mais non. En fait, il y a un autre pote du collectif PMO. Oui, le collectif PMO, je l'ai pas, c'est un pote, enfin bref. C'est les Trouducs de Grenoble, là, le collectif de mascu anti-tech, voilà. Un autre pote est proche de ce collectif, a sorti un bouquin qui est intitulé Le désert de la critique. Il l'a sorti l'an dernier, mais c'est une réédition d'un truc qu'il avait écrit en 2016, qu'il a augmenté suite au développement du wokisme en France. Si, si. Et c'est un bouquin qui dit, en gros, alors je ne l'ai pas lu celui-là, hein, mais je me suis tapé des interviews de son auteur Renaud Garcia, Et on peut résumer ces récriminations ainsi, parce que c'est que des récriminations, en vrai, c'est pas des propos, même pas. Donc on peut résumer ça ainsi. Alors, ouin ouin, on peut plus rien dire, parce que les vilaines queer, elles font rien qu'à nous embêter, et elles sont comme les jeunesses staliniennes. Alors si, il a vraiment dit ça dans une interview à propos d'activistes qui ont empêché la tenue d'une pièce de théâtre dans laquelle on pouvait voir des blackface. Donc, Renaud Garcia, lui aussi, il rejette très fortement la PMA pour tout le monde, à ce qui paraît. Ouais, pas que pour les lesbiennes, non, pas du tout. Et pour argumenter ce rejet, il se place en défenseur des meufs, parce que l'artificialisation des accouchements, c'est pas cool pour les meufs. Et du coup, la PMA, comme c'est médical aussi, et bah, c'est une violence exactement de la même façon. Alors, on a du mal à suivre, hein, à moins d'être familière avec les techniques des fachos et de la droite de récupération des luttes féministes, dont ils se foutent complètement, hein, mais qui parfois leur permettent de dissimuler leurs obsessions derrière de bonnes intentions envers les femmes. Encore un mode rhétorique tout moisi. Et bon, ça m'amène au dernier point de rhétorique moisi qu'on trouve dans les écrits de ces auteurs et que je voulais aborder, qui est le prétexte de l'engagement politique. Donc, on va cibler certaines catégories en particulier, alors que ce n'est pas justifié, soi-disant pour la bonne cause, pour protéger les personnes, pour protéger les enfants, pour protéger la liberté. Dans la dernière vidéo de la chaîne YouTube ContraPoints, il y a Nathalie Wynne, qui est la créatrice de la chaîne, qui pointe le fait que les réacs et les fachos se cachent derrière leurs inquiétudes pour déverser leur discours haineux et oppressif. Donc le prétexte de protéger les enfants et les femmes apparaît constamment dans des discours transphobes qui sont actuellement très très présents, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et cette pseudo-inquiétude pour les enfants est toujours présente également dans les discours manifs pour tous. Et dans pas mal de discours de réac soi-disant de gauche, on retrouve une hostilité vis-à-vis des queers, une hostilité vis-à-vis des transidentités, de ces questions-là, des personnes qui ne sont pas hétéros, hein, carrément, des familles qui ne sont pas hétéronormées, une hostilité vis-à-vis de la remise en question de la binarité de genre. Cette hostilité, elle se manifeste sous le prétexte d'une inquiétude. Une inquiétude par rapport aux conséquences sur l'écologie, par rapport au développement des nouvelles technologies qui avanceraient masquées derrière les queer cyborgs. C'est fatigant. Mais au final, même on retrouve aussi des inquiétudes pour la famille et son soi-disant démantèlement, donc, alors que la famille, quelle merveilleuse Eldorado pour les meufs, vraiment. Et on retrouve des inquiétudes par rapport à un soi-disant éloignement de la nature à cause des vilaines queer abolisseuses de genre. Ces dernières inquiétudes étant strictement les mêmes, hein, vous le remarquerez, la famille, l'éloignement avec la nature. Hein. Donc, c'est strictement les mêmes que celles de l'extrême droite et des cathos. Donc, le mouvement représentant la remise en question d'un ordre. Les mouvements représentant la remise en question d'un ordre établi sont pointés comme dangereux par les fachos, les réacs, etc. Et des personnes se prétendant de gauche ou anarchistes désignent comme dangereux les mêmes mouvements de lutte contre les oppressions. Ce qui nous permet d'identifier ces personnes comme ce qu'elles sont en réalité, des gros réacs, pas du tout de gauche, ni anarchistes du tout, en fait. He was a boy, she was a girl, can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet, what the fuck does it matter anyway? He didn't try to make her come, on top of all that he was a little dumb. Honestly she was better off alone, now he's breathing down the phone. He was a skater boy, she said see you later boy, he wasn't good enough for her. She's not a therapist, don't wanna take care of him, she's an independent girl. Me and my bitches, we have way more fun. Fairy tales, shouted from the tallest mountain. Well, she's in love with her damn self, yeah, yeah. Don't let it fuck with your mental health, yeah, yeah. Now that I'm in it, skated with some parasitic, sucking my nuts like he's trying to get back in my business, back in my butt. He'd be lucky just to sniff it. I'm so in love with all my independent bitches. He was a skater boy, she said, see you later, boy. He wasn't good enough for her. She's not a therapist, don't wanna take care of him. She's an independent.
5 years from now, in her beautiful home, somebody else is making a moan. Skater boy is alone, with his hand on his balls, still punching holes through his basement walls. He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. She's not a therapist, don't wanna take care of him. She's an independent girl. He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. And now she's a heavy hitter, he needs a babysitter. But she's finally found her worth.
Et c'était H. Nico avec une reprise d'Avril Lavigne. Je pense que vous aurez bien reconnu la reprise de Skater Boy qui là s'appelle Later Boy. Je voulais lire des extraits d'une brochure qui s'appelle Trans n'est pas transhumaniste et qu'on peut trouver sur Info Kiosque et qui critique entre autres un affreux manifeste donc de PMO, des antitech de Grenoble. Mais j'ai plus trop le temps, donc quand même, allez lire cette brochure qui s'appelle « Trans n'est pas transhumaniste » sur Info Kiosque, et peut-être j'en lirai des extraits une prochaine fois. Mais du coup, on va plutôt revenir aux bases. Les discours réactionnaires, ils ont des conséquences matérielles, ils entraînent des violences, ils entraînent des privations de droits pour les lesbiennes, les bi, les gays, les personnes trans, les grosses, les vieilles, les meufs. Ces discours, ils rendent leur vie moins vivable, nos vies moins vivables. On n'a pas deux opinions qui se font face quand on s'oppose au discours réactionnaire. On a un côté qui s'accroche plus ou moins consciemment à des repères et des valeurs périmées qui détruisent des vies. Et de l'autre côté, on essaie simplement de s'octroyer le droit d'exister. Juste ça, en fait. Un discours qui est du côté de la norme et qui la renforce, ce n'est pas la même chose qu'un discours qui la remet en question pour améliorer les conditions de vie des personnes. Il n'y a pas de symétrie possible, c'est pas un débat d'idées. C'est de la violence normative du côté des réacs et c'est de la résistance à cette violence normative en face. Et voilà, malheureusement, les logiques réacs, elles peuvent posséder chacune d'entre nous momentanément. Alors faisons un petit peu gaffe. Surtout, les types 6. Et maintenant, la rubrique astuce, reconnaître un réac. Alors moi j'ai une super astuce pour reconnaître les réactionnaires. Alors bon, j'avoue, c'est plus facile quand tu es pas un cis-type et que tu es féministe parce qu'ils se trahissent plus vite. L'astuce, c'est que généralement, il y a un moment où ils me traitent de fasciste. Et bizarrement, c'est que des cis-types qui sont pas contents parce que je veux pas leur parler, ou alors ils sont pas contents parce que je leur ai parlé. Alors, faudrait savoir, hein, à un moment, je parle pas, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Donc, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé de me faire traiter de fasciste. Faut dire que le confinement était passé par là. Hein. Et là, il y a eu une nouvelle occurrence bien caractéristique avec le super bingo des arguments fallacieux. Et que tu vois, les insultes, c'est juste parce que la vulgarité, c'est super, mais c'est pas du tout de l'homophobie, les insultes homophobes. Et c'est pas de la misogynie, les insultes misogynes. Non, mais moi, je comprends rien. C'est hyper subversif de dire qu'on fait du mal à des meufs et d'expliquer comment sur plusieurs phrases dans une chanson. Et c'est pas de la misogynie. Et d'abord, c'est complètement un hasard que des textes visent les meufs spécifiquement et que les insultes, elles soient spécifiquement transphobes, homophobes et misogynes. Ça a rien à voir avec le fait que les catégories concernées, elles subissent toutes sortes de violences et d'oppressions qui vont dans le sens de la norme la plus dégueulasse. Nous, on est trop subversif d'oser aller dans le sens du courant de la crasse normative. C'est juste que c'est plus drôle comme insulte, c'est le hasard certainement. Et d'abord, comment ça tu voudrais que j'arrête de dire des trucs misogynes en public sur une scène? Mais non, je veux pas faire ça. Les insultes misogynes, c'est mon doudou. Et toi, tu veux me prendre mon doudou? Allez! Et c'est parti! on met les bras en l'air et c'est parti pour l'aérobic des ouin-ouin. On saute en écartant les bras et les jambes, des jumping jacks ça s'appelle, hein, et on crie ouin ouin ouin. Allez, on y va, exagération, déformation, confusion, victimisation, et ouin ouin ouin, exagération, déformation, confusion, victimisation. Allez, assez d'efforts physiques. Les techniques rhétoriques utilisées par l'extrême droite et les réactionnaires dont on a parlé pendant l'émission sont assez bien explorées et résumées par The Alt-Right Playbook. C'est une série de vidéos sur YouTube et aussi sur une chaîne YouTube qui s'appelle Horizon Gull. Voilà, c'est exploré aussi, ces rhétoriques-là. Allez écouter l'émission de Comme un ouragan pour une alliance transféministe contre les TERF. Regardez les deux dernières vidéos de ContraPoint, c'est long mais ça en vaut la peine. On se retrouve le mois prochain, quatrième dimanche du mois, dans des litres de salive. Et on écoute, pour se dire au revoir, Shitty Protest Song de Audrey Plath.
Just another shitty protest song for a fight that's gone on way too fucking long, and I'm not saying much. These lyrics ain't too strong, but at least it's easy to sing along. Yeah, pigs have got lots of riot gear. Pigs have got way too much riot gear. But you know that they're really depending on your fear. Even though they got their riot gear, you know they ain't shit without that gear. Yeah, queers to cops, 69 to 1. Here's the cops at 69-01. I think that we all know what needs to be done. Yeah, we got them 69-01. Yeah, fascists there rising in the streets. Yeah, Nazis there marching in the streets. But they're made of fragile bones and pierceable meat. I think it's time we meet them in the streets. Much for their defeat. It's not too late, we gotta get organized. It's not too late, we gotta get organized. If we stand together, they don't stand a fucking chance. So come on, comrade, let's get organized. It's not too late, we gotta get organized. Just another shitty protest song for a fight that's gone on way too fucking long. So pick up that stick